7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous parlons aujourd'hui du racisme auquel doivent faire face les communautés asiatiques en France.
Le racisme anti-asiatique, il existe. Il est ordinaire, il est sournois.
Tran ! C'est marrant ! Mon docteur s'appelle Tran, tu le connais ?
Bah non, Bruce Lee.
Vous parlez super bien français.
Si tu veux réussir, faut que tu changes ton nom.
Tu dois bien savoir masser.
7 milliards de voisins. Ensemble.
Si les premières générations d'immigrés arrivées dans les années 70-80 ont préféré passer les moqueries, les agressions racistes sous silence, la seconde génération, elle, née et élevée en France, lève la voix pour dénoncer une parole qui s'est banalisée. Alors, à quels préjugés les communautés asiatiques en France font-elles face ? Comment lutter contre ce fléau jusque-là largement ignoré ? Avec nous, pour en parler, Maïlam Nguyen Konan, bonjour.
Bonjour Charlie.
Vous êtes formatrice et coach en management. Vous publiez le livre français « Je vous ai tant aimé, l'impossible intégration ?» point d'interrogation, votre histoire et puis l'histoire de votre rapport à la France où vous êtes arrivée enfant. Bonjour Grace Lee.
Bonjour.
Vous êtes blogueuse, créatrice du site web La Petite Banane, fondatrice aussi de la web-série Ça reste entre nous, une web-série documentaire qui recueille les témoignages de personnes asiatiques aux parcours divers et variés. Kélam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes illustratrice française d'origine hongkongaise, arrivée en France à l'âge de 6 ans avec vos parents, initialement pour 2 semaines, et puis le séjour s'est rallongé. Vous publiez un très joli roman graphique sur votre histoire, Banana Girl, jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Alors le titre, donc Banana Girl, fille banane, qu'est-ce que ça veut dire ?
Banane, comme vous l'avez dit, c'est jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ça vient de ma famille. C'est ma famille qui me dit que je ne suis pas assez chinoise, que j'ai grandi en France. Donc j'ai cette culture française un peu contestataire, pas forcément docile. Donc voilà, ça vient à la base de chinois. Qui trouve que je ne suis pas assez chinoise, et voilà.
Et on reviendra sur votre rapport à votre identité. Nous allons être également en deuxième partie d'émission en compagnie du fondateur et ancien président de l'Association des jeunes chinois de France, Sacha Lin. Les voisins, les voisines, on attend dès maintenant vos commentaires, vos réactions, vos témoignages, si vous en avez, ou vos questions pour nos invités.
Encerclés et dépouillés par des pickpockets, en plein cœur de Paris. On a pu longtemps croire que les agressions envers les Chinois étaient réservées aux touristes. Mais depuis le meurtre de Xan Shaolin, le 7 août à Aubervilliers, certains se mobilisent.
Ça fait 20 ans que ça dure, on veut plus rester dans le silence.
À Aubervilliers cette année, une centaine d'agressions a eu lieu contre des Chinois. Raquettes, voitures incendiées, les habitants excédés ont décidé de monter eux-mêmes la garde au pied de leurs immeubles.
Ce qui est arrivé en fait à ce couturier d'Aubervilliers, ça m'a rappelé en fait ce qui est arrivé à ma mère quand j'avais 15 ans. On l'a agressé, on lui avait volé son sac. Et si vous voulez, aujourd'hui je vais bientôt avoir 40 ans et je me dis que 25 ans après c'est toujours la même chose, voire pire. C'est alimenté de préjugés en fait que la communauté asiatique, on a beaucoup d'argent sur nous, on est plutôt discret, donc on va pas forcément se plaindre à la police. Et du coup, ça génère en fait des agressions de cet ordre-là qui aujourd'hui déplore un mort.
Alors, on vient de l'entendre, en août 2016, un père de famille chinois, couturier Sang Shaolin, meurt des suites d'une agression par 3 jeunes à Aubervilliers, en région parisienne. La justice retiendra le caractère raciste de cette agression. Grace Lee, vous diriez que la société française a découvert à ce moment-là l'existence de ce racisme anti-asiatique ?
Découvert, peut-être. En tout cas, moi, je ne l'ai pas découvert à ce moment-là, ça, je peux vous le dire. Moi, ce que j'ai retenu de cet épisode, c'est que, pour la première fois, on a médiatisé une chose très, très grave, c'est-à-dire que quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort à cause d'un cliché. Le cliché qui voudrait que il aurait, parce qu'il est d'origine asiatique, il aurait de l'argent liquide sur lui, parce que, voilà, juste ses traits physiques. Voilà, juste ça, ça a mis fin. C'est quand même très, très, c'est très grave. Et les clichés, c'est pas juste des petites choses anodines qu'on nous dit, c'est pour rire. Non, en fait, les clichés, ça peut donner ça.
Maïlam Nguyen Conan, qu'a révélé cette agression, selon vous? Et puis le débat aussi qui a suivi.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience, en tout cas, de quelque chose d'émergent. Et comme on en avait discuté ensemble, je crois qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on arrive à mettre des noms là-dessus. Depuis cette agression, depuis les manifestations, on parlait d'agression. Est-ce que ces agressions ont un caractère raciste? Est-ce que ces agressions visaient particulièrement ces populations du fait de leurs origines supposées, de leur couleur de peau? Et ce qu'on disait, donc, dans les formes de racisme que l'on voit, je ne sais pas si on en parle maintenant ou après.
On va pouvoir en parler.
Allez-y. Donc, dans les formes de racisme, effectivement, depuis 2 ans, le travail que l'on arrive à mener, donc, pour vraiment persuader la population que c'est du racisme, parce qu'il y a vraiment un procès en légitimité que l'on nous fait, hein, sur ces événements. Là, je vous disais, donc, les crimes qui ont eu lieu, c'est vraiment ce qui participe de ce qu'on appelle de la cynophobie. D'accord, la cynophobie, c'est vraiment tout, la détestation, le rejet, la peur de tout ce qui semble chinois, tout ce qui a un rapport avec la culture chinoise.
Qui est lié à cette idée du péril jaune aussi.
Qui est vraiment ancré historiquement, le péril jaune, donc la masse démographique de la Chine, la puissance économique de la communauté chinoise en France, mais dans le monde. Donc, et cette cynophobie, en fait, elle est d'autant plus exacerbée quand il y a concentration, densité de la population de la communauté chinoise. Dans un quartier. Donc effectivement, Aubervilliers, Vitry, Ivry, etc. Ce sont des populations qui vivent encore plus à risque parce qu'on veut vraiment les dépouiller, d'accord, de ce qu'elles ont, du succès, des réussites qu'elles peuvent avoir. On veut vraiment les en dépouiller.
Et à Aubervilliers, par exemple, on a plusieurs milliers de personnes d'origine chinoise arrivées dans les années 90, début des années 2000 et qui travaillent notamment dans le textile.
Tout à fait, oui. Donc effectivement, c'est les différentes vagues. On va avoir du fin 19e et entre les deux guerres, donc beaucoup de travailleurs indo-chinois, chinois que l'on a fait venir en France, donc du fait de la colonisation et de l'exploitation des comptoirs, etc. Mais après, effectivement, à partir des années 70-75, donc il y a eu une arrivée à la fois massive de ce qu'on appelait les réfugiés de l'ancienne Indochine, donc Vietnam, Laos, Cambodge.
Les boat people.
Les fameux boat people, même si la plupart ne l'étaient pas. Parmi donc, ces 200 000 à peu près arrivés, il va y avoir quand même 70% de personnes d'origine chinoise. Hein, ce sont des Chinois du Laos, du Vietnam et du Cambodge. Majoritairement des Tutsu. Donc, ensuite, à partir donc, de l'assouplissement après 78, une autre vague des Wenzhou. Les Wenzhou sont vraiment la communauté chinoise la plus importante et la plus ancienne en France. Donc installée dans le 3e et notamment Aubervilliers, etc. Donc les Wenzhou sont vraiment la population la plus importante. La dernière vague va concerner plutôt les années 90-2000, plutôt venant du Dongbei. Hein, donc, et majoritairement, ce qu'on disait majoritairement dans les statistiques, des femmes isolées. Voilà, donc en gros, cette communauté aujourd'hui asiatique, parce qu'on parle des Asiatiques, du racisme anti-asiatique, ça fait combien en France? On va dire 1,4 million à 2 millions. Ça, on n'a pas de statistiques précises.
C'est difficile à chiffrer.
En gros, on va dire 700 000 Chinois, donc Chinois d'origine chinoise. 300-400 000 Indochinois, ex-Indochinois, et puis 400 000 Sud-Asiatiques, donc Indiens, Sri Lankais, Pakistanais, etc. Voilà. En gros, c'est un petit peu cette communauté asiatique dont on va parler certainement.
Et vous le dites, il y a différentes formes de racisme. Il y a cette cynophobie très agressive, très exacerbée.
Voilà. La cynophobie, c'est ce qu'on va vraiment qualifier de racisme parce qu'il y a des agressions, il y a des insultes, il y a des crimes qui sont commis par détestation, par peur, etc. Et puis, il y a deux formes de racisme qu'on va appeler un petit peu plus justement ce qu'on disait sournois, c'est-à-dire que plus difficile à qualifier. Pour moi, le premier, ça va être le racisme par indifférence, par ignorance, un peu de mépris. Vous savez, c'est vraiment la communauté invisible. Donc, en gros, elle n'existe pas. Donc, absence dans les médias, absence dans la sphère politique, absence dans l'économie. Donc, vraiment, on fait pas attention à eux parce qu'ils sont discrets, ils n'existent pas. D'accord. Donc, c'est toujours...
Minorité invisible.
La minorité invisible. Et puis, il y a le racisme envers... Là, c'est un peu encore plus compliqué. C'est le racisme parce qu'on nous aime bien. Vous savez, c'est le racisme envers la minorité modèle. Donc, l'hypersexualisation des femmes, Grace pourra vous en parler. Ils sont travailleurs, donc comme ils sont travailleurs, on peut tout leur demander, et puis on va leur demander aussi en dernier. Donc, tous ces stéréotypes positifs, hein, d'accord, parce qu'on nous aime bien, liée à la, donc à cette communauté qui réussit, qui est excellente, etc. Et dont on va pas vouloir reconnaître nécessairement qu'elle peut avoir des souffrances, qu'elle peut avoir des besoins, qu'elle peut être
victime. Ça reste des stéréotypes.
Ça reste complètement des stéréotypes, voilà.
Gracely.
Moi, j'appelle ça, ce qu'elle dit, Maïlam, là, j'appelle ça des compliments racistes. C'est-à-dire que les gens, ils pensent qu'ils vous font un compliment, et en fait, non. ça reste quand même une case dans laquelle ils vous mettent, et de laquelle vous ne, à leurs yeux, vous ne sortez pas. Donc oui, ça reste un stéréotype, ça reste un cliché, et ça ne représente pas de manière adéquate, en fait, qui nous sommes.
Est-ce que vous faites face régulièrement à ce racisme ordinaire, entre guillemets, latent, dans votre quotidien ?
Bah écoutez, moi carrément j'en ai fait un blog, j'en ai fait une web-série documentaire, donc oui, effectivement, j'ai collecté tout au long de ma vie ces petites phrases. Alors moi j'ai jamais été victime d'insultes, de gestes violents à caractère raciste, hein, donc, mais par contre j'ai fait l'objet de ces petites phrases de « Ah, mais j'adore les Asiatiques, ah, j'ai toujours voulu sortir avec une Asiatique, vous êtes hyper serré du bas. » Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on me dit en tant que...
c'est choquant, en effet.
Femme asiatique, et si vous voulez... donc, au début, on se dit... est-ce que... En fait, on ne se sent pas bien. Moi, il y a un malaise, si vous voulez, que quand on me dit ça, je me dis, c'est pas possible qu'il essaie de me draguer, mais en fait, non, c'est pas ça. Et voilà, oui, donc en fait, j'ai fait face à ça, et je trouve que vous disiez que c'était ordinaire, et bon, je pense que Maïlam pourra vous le dire, mais c'est ordinaire. Moi, c'est pas ordinaire pour moi. C'est-à-dire que quand on me dit ça, je trouve pas, ah, c'est banal, c'est pas grave, ça passe bien. Non, ça passe pas, en fait. C'est ordinaire pour la personne qui le dit, parce que cette personne-là n'en est pas responsable. C'est ordinaire parce qu'elle peut le dire et ensuite marcher, rentrer chez elle et passer sa journée comme elle le veut. Mais moi, en fait, je reste scotchée devant cette phrase et je ne peux pas vraiment m'en détacher. Donc, ce n'est pas ordinaire pour tout le monde.
Les voisins, les voisines, on vous attend pour vos témoignages si vous vous sentez concerné ou vos questions, si vous en avez. Un numéro, le 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Alors, une comptine raciste a fait polémique. Shang, le petit chinois, vous en avez sûrement entendu parler. Le texte aurait été enseigné dans au moins 2 classes de maternelle en région parisienne. Je vous propose d'en écouter un court extrait, non pas pour propager ses idées, mais plutôt pour comprendre ce dont il est question. Écoutez. Une comptine donc enseignée au moins dans 2 classes de maternelle en France, en région parisienne, qui a été découverte en décembre dernier. Kélam, je vous ai vu hocher la tête d'un air réprobateur.
Mais oui, parce que avec mon livre, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas du tout idée qu'il existe ce racisme-là. Et moi, quand je vais dans des écoles pour faire des interventions, les premières questions des enfants, c'est est-ce que tu manges du chien ? Est-ce que tu manges avec la baguette ? Est-ce que vous exploitez les enfants en Chine ? En fait, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ça perpétue même aujourd'hui.
Et d'ailleurs, vous le racontez dans votre bande dessinée aussi, quand vous-même vous étiez élève à l'école, les autres élèves vous demandaient « mais tu as le visage tout aplati, non mais ton vrai prénom c'est quoi ? Est-ce que tu manges des chiens ?»
Oui, et ça perpétue même aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la rue, mais c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'on se promène et j'ai droit à un « ni hao ». Alors ça peut être dit gentiment, mais ça peut être dit très méchamment, ça peut être dit violemment et... Et ça, c'est au quotidien. En fait, on me renvoie constamment à mes origines, alors que moi, je n'ai rien demandé. Et les gens ne se rendent pas compte de ça.
Et ça vous pèse ?
Alors, je dirais que contrairement à toi, moi j'en ai marre de m'énerver. C'est-à-dire que j'ai pas envie tous les jours de dire aux gens, bah écoutez, ne me dites pas ça. Enfin, j'essaye de pas y penser. Des fois, je me dis que je le vois même plus. En fait, je crois que c'est le problème, c'est que comme c'est quotidien, on n'arrive même plus à voir ce problème-là, nous-mêmes. Et je me suis rendu compte... avec la sortie du livre, que finalement, j'ai fait un espèce de déni, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on fait un... Comme c'est au quotidien, on n'a pas envie d'en parler, et puis qu'est-ce que ça intéresse et... Mais c'est important. Je pense que c'est important de sensibiliser les enfants, de leur expliquer que non, je ne mange pas de chien, que ça, c'était peut-être mes ancêtres et encore, c'est même pas sûr. Enfin, il y a plein d'idées reçues comme ça et je pense que c'est très important de, dès le plus jeune âge, d'en parler.
Alors, on va donner la parole à une voisine tout de suite, Florence, qui est à Épernay, en Champagne, en France. Bonjour.
Oui, bonjour, Charlie.
On vous écoute.
Oui, alors moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ça. En fait, moi, je suis à moitié asiatique. Je suis moitié philippine, moitié française. J'ai jamais tellement subi de racisme. J'étais très, très intégrée. J'ai peu d'amis asiatiques. J'en ai quand même beaucoup. Enfin, j'en ai quand même certains, mais ils sont pas. J'ai pas l'impression qu'on a. J'ai subi un énorme racisme, que ce soit en étant jeune. J'ai eu des pics subi du racisme. Je pense que c'est une question de point de vue. Et puis, ça dépend aussi de l'intégration et de l'éducation des parents auparavant. Si on nous dit, ouais, voilà, t'es différent, tu vas toujours subir une sorte de racisme, une sorte de différence, ben, en fait, forcément, on va rester différent. Alors que si on nous dit, ben voilà, suis la ligne, comporte-toi bien, intègre-toi. Oui, parfois on va avoir des petits pics. Moi, j'ai ma belle-sœur qui souvent qui me dit, si je mets du scotch sur mes yeux, tu crois que je vais devenir asiatique? Et moi, j'en rigole. J'ai pas l'impression d'être de le subir. J'ai pas, enfin, on va dire que ça me glisse dessus. C'est pas, je le vois pas comme une méchanceté ou je le vois pas. Après, moi, je la pique aussi derrière.
Donc pour vous, il n'y a pas vraiment de racisme anti-asiatique. En tout cas, vous n'y faites pas face.
Non, en tout cas, je l'accepte. Et en fait, le racisme, il est présent chez tout le monde, en fait, que ce soit qu'on soit jaune, blanc, etc. Mais après, c'est une question plus d'intégrité, en fait. De se dire qu'on est d'accord ou non, ou avec lequel on fait face.
Merci Florence pour ce témoignage. Grassley, je crois que vous voulez réagir.
Oui, je voulais merci Florence pour votre témoignage et je trouve qu'il est tout à fait légitime. Enfin, chacun peut avoir un avis, mais par contre, le racisme, c'est pas un point de vue. En fait, le racisme, de tout point de vue, il est condamnable. Donc après, vous percevez différemment les choses en tant que personne. On est tous différents, donc on perçoit évidemment les choses différemment en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a, de qui on est, de comment on ressent les choses. Et ça je peux le... Moi, je n'ai pas aucun souci là-dessus. Sauf que... là, vous parlez d'accepter quelque chose. Vous avez prononcé ce mot, ce racisme. Moi, je l'accepte. Et en fait, c'est ça. Moi, je peux pas l'accepter, ce racisme-là, parce que ce n'est pas pour moi. Comme vous dites, c'est pas une méchanceté. Bon, si vous le percevez pas comme une méchanceté, parce qu'on vous l'a dit d'une manière enrobée, etc. Tant mieux pour vous. Mais je peux pas. On peut pas. Comment dire, étendre votre point de vue à la population et surtout lorsqu'il y a des victimes comme Zhang Xiaoling qui sont morts de clichés, on ne peut pas accepter ce genre de choses.
Et il y a aussi, peut-être pour expliquer certains de ces clichés, un manque de représentation de ces différentes communautés asiatiques dans la culture, au cinéma par exemple, dans la littérature. Comment vous l'avez vécu ça?
Moi, moi personnellement, j'ai vraiment souffert de ça étant petite, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'est pour me réconcilier avec moi-même enfant. Et j'ai plein de témoignages de gens qui m'écrivent en me disant, c'était nécessaire. Moi, j'ai pas eu ce livre-là en main quand j'étais jeune, et je me rends compte que cette question de double culture, elle est pas vraiment diffusée en France, quoi. On voit effectivement Jamel Debbouze, on voit Omar Sy, mais on voit pas de femmes asiatiques finalement à la télé, dans les livres. Ou alors dans les livres, on parle de la Chine, c'est Tigre et Dragon par exemple, ou ça va être Bruce Lee, Jackie Chan. Mais moi aujourd'hui en 2018...
Par qui vous vous sentez représentée?
Exactement. Qui me représente?
Grace Lee.
Il y a maintenant des études qui prouvent que lorsque les personnes sont face à une représentation juste de qui elles sont, le champ des possibles est élargi. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'une petite fille qui voit une femme astronaute, elle aura plus de chances, elle, de devenir astronaute plus tard. C'est-à-dire que
on a besoin de se projeter.
Absolument.
En fait.
Donc, y en a pour qui ça ne fonctionne pas comme ça, il y en a pour d'autres, si. Et voilà, donc c'est pour ça que la représentation est importante. Oui.
Et on va en reparler. Grâce l'email, Lam Nguyen Konan, Kélam, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI dans 3 minutes. A tout de suite, les voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Y a-t-il un racisme politiquement correct? Un racisme qui choquerait moins que les autres? Une question volontairement provocatrice que posent de nombreuses associations représentant des communautés asiatiques en France. Nous parlons aujourd'hui du racisme qui frappe ces communautés, des préjugés répandus, des origines confondues, des amalgames. Comment déconstruire les stéréotypes? Comment lutter contre ce racisme? Nos invités ne sont pas forcément d'accord sur les moyens d'agir, on le verra avec nous. Autour de ce plateau pour en parler, Kélam, ingénieure et illustratrice française d'origine hongkongaise, auteure du roman graphique Banana Girl. Également sur ce plateau, Maïlam Nguyen Konan, formatrice, coach en management, auteure de Français, je vous ai tant aimé, l'impossible intégration, pardon, point d'interrogation, et Grace Lee, blogueuse, fondatrice de la web-série Ça reste entre nous, que l'on peut voir sur Facebook. Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71 pour tous vos témoignages, toutes vos questions. Alors, un sketch avait fait scandale en décembre 2016. Nous sommes sur la chaîne de télévision française M6, en plein prime time, hein, c'est l'heure de grande écoute, dans un décor rempli de dragons dorés, de panneaux de bois. Et les humoristes français Kev Adams et Gad Elmaleh y sont grimés en chinois, à longues tresses, en tenue bariolée, extrait choisi.
Nous allons tous ensemble faire un son. Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir.
Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière là. Je suis en train de faire... Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire.
C'est... Non, ça, c'est accent chinois. Okay. Japonais, c'est plus.
Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises?
Ça veut dire j'adore les sushis.
Plus de 4 millions de téléspectateurs regardent la séquence ce soir-là. 10 minutes de clichés difficiles à commenter. Grace Lee, comment vous réagissez à ce type de sketch?
C'est très douloureux. Ce n'est pas le seul. Hein. Ah, ouais. Non, mais c'est très douloureux pour moi d'écouter ça. C'était en 2017.
Décembre 2016.
Pardon, c'est en 2016 et c'était hier en fait. Donc, vous savez, pour moi, déjà l'accent qu'il. Ces personnes qui ont fait ça, elles ont mis en. C'est un fantasme en fait. C'est-à-dire que moi, je connais personne qui parle comme ça. Vraiment. Je ne connais. Et je connais un tas d'Asiatiques de tous bords et je connais personne qui parle comme ça. Donc, ça n'existe pas et c'est pour se moquer. Pourquoi est-ce que. Si vous voulez faire de l'humour, moi je trouve ça très bien l'humour, j'adore les humoristes, mais pourquoi allez-vous rire de nous plutôt qu'avec nous? Il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que aujourd'hui on vous dit on ne peut plus rien dire, etc. Non, non, vous pouvez dire des choses, mais dites des choses, allez dans un bon sens.
Alors justement, en février dernier, quelques temps après ce sketch, vous avez lancé, Grace Lee, une web-série sur Facebook, Ça reste entre nous, déjà 3 épisodes. Le premier épisode a alors été vu 80 000 fois, il portait sur les femmes asiatiques, le deuxième portait sur les hommes, et puis, dernier en date, un épisode sur nos enfants multiculturels, c'est le titre. Je vous propose d'en écouter un extrait.
J'ai 3 sœurs, donc je suis le seul garçon. Mes parents, eux, sont chinois de Malaisie. Ils sont venus en France et ils ont essayé quand même quand j'étais petit de me dire oui, ce serait bien que tu sois avec une femme asiatique, que ce sera plus simple, etc., etc. Mais moi, j'ai entendu ça et après, je l'ai pas forcément écouté. J'ai vécu ma vie et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec Sabrina, ma compagne, qui est d'origine berbère. Et on a un petit, Axel, qui a 2 ans et demi.
Moi, je viens d'une famille très, très métissée. On est métissé de génération en génération. Moi, je suis d'origine vietnamienne, majoritairement. Et moi, effectivement, je suis en couple avec un Français, breton, vendéen. On a un petit garçon ensemble, Clément, qui a 3 ans, et bientôt une petite fille qui arrive en août. J'ai eu la chance d'être élevée par une grand-mère formidable, analphabète, mais une puits de sagesse incroyable qui m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner de ma culture d'origine. Donc ça, de ce côté-là, je me sens très riche déjà.
Alors l'idée de cette web-série, c'est de réunir autour d'une table plusieurs personnalités, personnes d'origine asiatique, pour raconter leur parcours. Gracely, comment vous est venue cette envie-là ?
Eh ben, c'est un peu comme ce que disait Kaylam tout à l'heure, c'est un récit manquant. C'est-à-dire que moi, ce récit-là, il manquait pour moi. J'avais besoin de me dire qu'on pouvait, on pouvait parler des choses qui nous concernent. Déjà, on parle de choses qui nous concernent. On parle des clichés dont on nous affuble et je pense qu'on est les mieux placés pour en parler. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous restez toujours entre vous, vous êtes bon en maths, vous... Voilà. Et toutes ces choses qu'on voulait, en fait, déjà, nous prendre la parole pour les décortiquer, dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce que ça te fait toi, qu'est-ce que tu ressens. Voilà, c'est déjà, c'était l'idée de nous dire, voilà, on a envie de le faire, allez viens, on le fait. Voilà.
Et à qui vous vous adressez?
Écoute, d'abord, je m'adresse à moi-même, en vrai, quand je faisais ça. Le premier épisode, c'est avec des copines. Donc on l'a fait, on s'est dit, on va bien rigoler, de toute façon, si ça foire, on aura rigolé, c'est tout. Et finalement, l'accueil qu'on a eu du public était on n'aurait jamais pu imaginer ça. Parce qu'on est tout inconnus, on parle de choses qui ne sont pas... pour moi, c'est des choses très universelles, si vous voulez. C'est-à-dire que, oui, nous sommes asiatiques, nous sommes autour d'une table, on mange. Tout le monde fait ça. Enfin, je veux dire, vous vous retrouvez avec vos copines, vous discutez de choses. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Et on parle de... Ah, on m'a dit ça. Ta mère, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit de trouver un mari asiatique. Ah, moi, oui, moi, non. Enfin, voilà. En fait, on discute entre nous et on n'est pas pareil, en fait. On est toutes très diverses.
Et c'est aussi parler de vos origines, pas simplement des clichés qui sont véhiculés sur vous, mais de vos origines, de vos histoires. C'est les mettre en avant aussi.
Absolument. On a en France l'idée que nous sommes tous asiatiques, il y a la communauté asiatique au singulier. On parle de chinois, on ne sait pas trop de qui on parle.
Avec beaucoup d'amalgames. Hein.
Voilà. Alors qu'autour de cette table, il y a des personnes avec des parcours très différents, qui sont tous donc uniques, bien sûr, et aussi qui viennent de pays avec des histoires. Voilà. Et l'idée, c'était ça aussi, de montrer la diversité dans la diversité.
Maïla Menguyen Konan, quel regard vous portez sur ce type d'initiative, là en l'occurrence sur les réseaux sociaux?
Oui, en fait, ce qui est très intéressant avec le sketch de Gad Elmaleh, c'était pas tellement le sketch qui est intéressant, c'était ce qui a suivi. En fait, il y a eu une tribune d'Anthony Chélan dans Click, et pour moi, elle est vraiment marquante parce que, effectivement, moi, quand j'ai vu le sketch, j'étais avec mes enfants, j'avais la même boule au ventre. D'accord, j'ai eu la même boule au ventre que depuis des années, Michel Leeb, enfin, genre toutes les autres humoristes, soi-disant drôles, le fait qu'on m'appelle la jaune de service, enfin, toutes ces choses-là. Donc, j'ai le niaque, le truc, enfin, toutes ces expressions qui sont dans la société française de monde courant. Donc, j'avais cette boule, mais j'ai jamais réagi par rapport à cette boule. Et je pense que ce que dit Florence tout à l'heure, l'auditrice tout à l'heure, était marquant. C'est-à-dire que, en gros, c'est une boule, c'est normal, j'y fais pas attention, c'est un peu comme le sexisme. Vous savez, on le subit, puis c'est normal. C'est la norme. Donc, la norme, c'est l'intégration. La norme, c'est l'assimilation à la culture française. Donc, on laisse passer. Ensuite, en dehors de ça, donc, ce qu'a fait Anthony Chélan, que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il a dit, non seulement ça m'a fait mal, mais j'ai eu honte vraiment de la façon dont on a fait le portrait des Asiatiques. Et aujourd'hui, je le dis.
Anthony Chélan, qui est...
Donc rédacteur en chef de Click TV. Donc en fait, ce qui a été vraiment marquant, c'est que aujourd'hui, on déconstruit en fait tout ce que l'on ressent. C'est vraiment dire, on ressent quelque chose et c'est pas normal ce que l'on ressent. Et non seulement c'est pas normal, mais en plus, on peut faire en sorte d'éviter de le ressentir encore en 2018, 2020, etc., etc. Donc vraiment, comme vous disiez, voilà, ce qui a changé vraiment par rapport à il y a deux ans, trois ans, c'est que effectivement, on lutte pour qu'il y ait une reconnaissance de ces faits, donc de faits racistes, qui peuvent être de plusieurs degrés. On lutte, enfin, on accompagne dans la communauté ou parmi les Asiatiques, qu'ils soient métis, pas métis, première, deuxième génération, troisième génération, l'idée qu'effectivement, ce que vous ressentez n'est pas normal, que vous n'êtes pas seul à le ressentir, et qu'à un moment donné, effectivement, on peut faire en sorte d'avoir un discours à peu près commun pour faire en sorte que tout ça, ça cesse.
Quelle âme.
Oui, je voulais réagir parce que là, je trouve qu'aujourd'hui, on est médiatisé, on en parle entre nous, les gens commencent à l'entendre. Mais le problème, c'est que au quotidien, moi, je ne sais pas faire face à ces situations. Je prends un exemple. Je me balade dans le quartier de Belleville à Paris et un monsieur m'arrête en me demandant où est le défilé chinois. Et moi, je ne savais pas quoi lui répondre. Donc, je lui dis, écoutez, je ne sais pas.
Il me dit, mais comment ça, vous ne savez pas? Et c'est ça, c'est ça. Et moi, je ne sais pas comment réagir face à ces situations. J'ai un autre exemple, un monsieur qui vient me voir, il me parle chinois. Et je lui réponds très gentiment, bah, excusez-moi, je préférais qu'on parle en français parce que je suis plus à l'aise en français. Et, mais il va continuer à me parler en chinois en me disant, bah, moi, j'apprends le chinois et j'aimerais bien pratiquer. Et en fait, le problème que j'ai, c'est qu'on est toujours en train de se justifier. C'est-à-dire qu'on doit apporter avec nous le poids de la Chine, la culture.
On renvoie vos origines.
On renvoie constamment à mes origines. Moi, je dois justifier pourquoi il y a un problème de droit de l'homme. Alors, c'est, en fait, c'est à moi qu'on pose ces questions-là.
Et ça, sur la politique de la Chine.
Voilà, et c'est un problème. Et je ne sais pas comment réagir au quotidien face à ça.
Oui, c'est ça, c'est un peu, on est dans le modèle français de l'assimilation, hein, d'accord ? Donc, en gros, on nous dit officiellement, on est tous français, et en même temps, on n'arrête pas de nous renvoyer à nos origines supposées, donc nos origines, on arrête Chine-là, on nous renvoie, par exemple, à un Vietnam, mais on n'a rien de ce Vietnam-là non plus. Et donc, ce qui est intéressant avec cette deuxième et troisième génération, c'est qu'à la fois, donc, ils revendiquent le fait d'être français, et en même temps, ils font ce voyage, donc ce parcours à la découverte eux-mêmes de leur culture d'origine.
C'est ce que vous avez eu besoin de faire d'ailleurs, ouais. Kélam, dans cette BD, dans ce roman graphique.
Ouais.
C'est important en fait de connaître ces origines.
Il y a plein d'initiatives, donc, dont le magazine Koï dont je vous parlais, qui est vraiment de dire, puisque vous nous assignez à des origines que vous ne connaissez pas, donc on va faire un travail à la fois pour nous-mêmes et pour vous, c'est-à-dire de vous faire connaître vraiment les différentes cultures d'Asie. D'accord, donc voilà. Et ensuite, effectivement, de pouvoir les promouvoir de manière positive.
Le magazine Koï, fondé par une jeune fille.
Oui, Julia Maïd, qui est une jeune fille de métissée, donc métisse vietnamienne française.
Kélam.
Oui, je voudrais dire que même quand on fait cet effort-là, c'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon livre en main, je suis allée voir des éditeurs. Et il y a un éditeur qui m'a répondu : mais c'est pas un peu cliché de parler de vous, de votre culture, de vos origines. En fait, il y a une espèce de contradiction, c'est-à-dire que soit je suis trop chinoise, soit je ne le suis pas assez. Et moi, je ne sais jamais comment me positionner face à ça.
Alors, Sacha Lin, vous nous avez rejoint sur ce plateau, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir.
Vous avez fondé l'Association des jeunes chinois de France en 2009. Vous organisez régulièrement des manifestations, entre autres actions. Comment vous vous inscrivez avec cette association dans la lutte contre le racisme anti-asiatique dont nous parlons aujourd'hui?
Alors, l'association, depuis 2009, on a vraiment, depuis le début de la création, par rapport au racisme, la perception de la société sur la communauté chinoise, il y a une vraie évolution. Parce que, une intervenante l'a dit, on n'est pas obligé de ressentir le racisme. C'est vrai que le phénomène de racisme anti-asiatique, je crois qu'il apparaît très récemment. D'ailleurs, quand on a créé l'association, on a décidé de ne pas inscrire dans l'objet de l'association la lutte contre le racisme. On avait encore l'espoir de pouvoir éviter un front raciste, antiraciste, en apportant de la culture, de la compréhension.
Et puis la réalité s'est imposée à vous.
Et puis depuis, il y a eu des agressions violentes, morts aussi. Donc aujourd'hui,
c'est d'être visible aussi avec ces manifestations.
La manifestation, c'est vraiment le dernier recours pour essayer de canaliser une colère qui est incontenable. Donc depuis, je rappelle que la première grande manifestation dénonçant l'insécurité a été organisée en 2010 à Belleville, et que ça a réuni des dizaines de milliers de personnes, chiffre organisateur, chiffre officiel de la police, au moins 12 000 personnes, donc c'est une manifestation relativement importante pour une petite communauté qui plus est. Donc ça veut dire que ça, les agressions avaient commencé depuis au moins bien avant 2010 et de manière très très vaste et ample.
Et c'est important aussi de combattre sur ce front-là. Les voisins, les voisines, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant après un peu de trap chinoise. Made in China, c'est le titre. Et c'est de Higher Brothers. C'est tout de suite sur RFI. My chance to go watch Made in China. We play ping pong ball Made in China. Get bitch mad at sis pink Made in China. Yeah, high brother black car Made in China. She said that she didn't love me.
She said that she didn't like me. She said that she didn't like me. She lied, she lied. She all made it in China. She all made it in China. She all made it in China. She lied, she lied. 老总把你叫醒 Made in China 牙膏牙刷上面记 Made in China 包早餐放进陶瓷碗 Made in China 擦唇膏出门打气伞 Made in China 坐在公司里 旋转办公椅 360度 苏式冷机 钢笔画了一朵莲花 Cookie 需要放的盐巴 相框里面空出全家 全部 Made in China 全身上下总有中国货 亚历山那也有中文口 Chinese
7 milliards de voisins, je vous propose d'écouter une élève d'un collège de Clichy en banlieue parisienne. Je l'ai rencontrée en 2016, le racisme anti-asiatique vu par les yeux d'un enfant.
Je m'appelle Julie, j'ai 11 ans et je suis en 5e C. Je suis vietnamienne, c'était en CM2. C'était des garçons, et, ils se moquaient de mes origines. Ils disaient « Ah oui, toi, tu fais du kung-fu, je sais pas quoi. » Ils disaient « Tu manges des sushis tous les jours. » Tous les clichés, ils disaient « Oui, tu manges du chien. » Enfin, ils me traitaient de Shintok, de chinoise. Tous les prénoms qui venaient de l'Asie, de tous les pays, n'importe quoi, quoi. Je me suis pas laissée faire. Je me suis dit « Bah c'est bon, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Venez pas me voir. Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. » Ils ont arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient assez énervant. On n'a rien demandé, c'est pas comme si c'était de notre faute.
Julie, cette jeune fille a su lutter contre cette forme de racisme qu'elle a subie à l'école. Alors comment on peut déconstruire, démystifier tous ces préjugés ?
Ça, c'est une grande question. Moi, je pense que déjà, il faut en parler. Il faut essayer de raconter des histoires, de montrer qu'on a tous des parcours différents. Et je pense que c'est de sortir de cette masse. Quand on parle d'asiatique, on pense à une espèce de masse. Et alors que quand on commence à donner des témoignages, on parle, on voit qu'il y a des individualités. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à lutter contre cet effet de cliché, de stéréotype, quoi.
Maëlan Nguyen-Conan.
Oui, donc si on prend par exemple le modèle du hashtag This is 2016 aux États-Unis, qui disait en fait à un moment donné, a lancé un mouvement de dire en fait si on faisait la collection de toutes les manifestations, toutes les formes de racisme que l'on subit, de racisme anti-asiatique que l'on subit. Donc ça avait été un énorme mouvement. En France, il y a un journaliste qui s'appelle Gurvan Krishnadjadja qui a fait ça pendant pas mal de temps. C'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, il listait en fait, toutes les remarques qu'il avait subi, qu'il entendait, etc. Et c'était assez, effectivement, c'est assez fort déjà pour déconstruire, de se rendre compte effectivement de la quantité de toutes ces expressions, ces injures. Ça,
Et on voit encore que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la.
Exactement.
Dans la
vraiment, première chose à faire, c'est vraiment la collection. C'est vraiment de dire, plutôt que de dire qu'il n'y en a pas, ou quand il y en a, c'est vraiment pas grand chose, c'est que des bêtises, etc. C'est quand on voit la masse, en fait, de ce qui est dit, de ce qui est subi, et là, on se rend vraiment compte déjà qu'il y a un poids qui n'est pas négligeable.
Oui, Grassley.
Et moi, j'ai aussi une question, en fait, par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est que l'émission d'aujourd'hui, elle est sous-titrée « Pourquoi une telle omerta ?» Et en fait, ça, c'est une bonne question, mais ce n'est pas à nous qu'il faut la poser. Parce que moi, je la subis, cette omerta. C'est-à-dire que on en parle pas. Moi, j'en parle, en fait.
Mais on en parle aujourd'hui.
On en parle aujourd'hui. Mais c'est plutôt à vos consoeurs et à vos confrères qu'il faut poser la question « Pourquoi ?» Est-ce qu'on n'en parle pas plus ?
Et pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt aussi ? C'est également la question. Vous avez également, Maïlam Nguyen-Conan, vous organisez régulièrement des réunions, et ça c'est assez intéressant, qui réunissent des jeunes et des moins jeunes générations de différentes communautés asiatiques.
Oui, parce qu'effectivement, dans ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce soit reconnu, que le racisme anti-asiatique est reconnu et pour qu'on puisse y faire face. Un des points communs, c'est déjà un travail à faire sur nous-mêmes, sur nous-mêmes avec nous-mêmes, qui était en fait, beaucoup de ces jeunes deuxième et troisième génération sont donc français, assimilés, donc parlent peu la langue de leurs parents, sont complètement dans la culture, assimilés, intégrés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu d'échanges, de dialogues entre les générations sur ce phénomène-là. Effectivement, les jeunes accusant entre guillemets, reprochant un petit peu aux premières générations d'avoir été trop silencieux, d'avoir baissé la tête. Et les personnes plus âgées reprochant aux jeunes de toujours se mettre en colère, pourquoi se mettre en colère, pourquoi manifester, etc. etc. Et donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de les mettre en dialogue, de les faire converser. Et il se trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui en ressortent. C'est que, par exemple, il y a des communautés qui n'ont pas raconté du tout à leurs enfants le génocide khmer, qui n'ont pas du tout raconté le pourquoi, au Cambodge, pourquoi ils sont partis, pourquoi le parcours d'immigration, qui en fait ont avalé des couleuvres et qui les ont tues. Et donc, pour les jeunes comme pour les parents, c'est vraiment très intéressant de pouvoir ouvrir cette discussion, cette conversation, et de nous aider, en fait, mutuellement à relever la tête.
Et cela peut aider aussi à lutter à sa façon, à son échelle, contre le racisme.
C'est vrai que moi, quand je raconte que j'ai fait mon coming out asiatique, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment été fière d'être asiatique, mais pas contre les Français, c'était l'objet de mon livre, c'est juste fière d'être asiatique, c'est vrai que j'ai rendu service à mes enfants. C'est-à-dire que j'ai vraiment rendu service à mes enfants, je pense, dans la cour d'école, justement, de dire, en fait, si ma mère est fière d'être vietnamienne, moi aussi, je peux l'être. Plutôt que de subir de manière honteuse, genre des remarques qu'on peut nous faire.
Gracely, je pense que, comme le dit bien Malam, il n'y a pas de contradiction à être français. Et moi, je suis française et je suis chinoise. Et mes deux identités sont en harmonie. C'est-à-dire que j'aime autant le tofu que j'aime le fromage. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et je peux le dire. Et voilà. Donc, c'est...
Quelle âme.
Mais je pense que ce n'est pas le cas quand t'es petit. C'est-à-dire que... Moi, j'ai senti quand même une dualité, c'est-à-dire que je ne savais pas, j'étais assise entre deux chaises, je ne savais pas si j'étais vraiment chinoise ou vraiment française. Et je trouve que c'est avec l'âge, en discutant avec nos parents, justement...
Et d'ailleurs, vos parents ne vous avaient jamais parlé vraiment de leur expérience en
ça.
Chine.
Mais je pense que c'est lié à l'immigration, c'est-à-dire que nos parents arrivent dans un pays étranger, ils ont vraiment besoin de s'intégrer et ils ont besoin d'oublier leur passé pour avancer. Et moi, ils ne me parlaient pas, ils ne me racontaient pas leur histoire. Et c'est grâce à ce livre-là que j'ai pu les questionner. Mais je pense que voilà, c'est nous, notre génération, c'est à nous de porter aussi le message et d'ouvrir la voie.
Alors on va rapidement donner la parole à un dernier auditeur, un voisin, Monsieur Wang, à Paris. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi je me sens qu'en France, dans la société de racisme, ils sont restés deux côtés très forts. Ça veut dire deux côtés, soit très très riches, sont très haut dans le déplacé dans la société, soit c'est dans le en bas, c'est très pauvre, moins d'éducation.
Mmh. Vous êtes d'origine chinoise, il me semble.
Oui, je suis totalement chinoise. Plus je suis un peu particulier, très très variété pour votre interview. Moi, je suis ancien leader de place Tiananmen, donc j'ai un sentiment très bizarre, différent que les autres.
Et comment vous conciliez alors vos multiples identités?
Oui, par exemple, moi, quand je suis venu en France, je me sens bon, il y avait beaucoup, beaucoup de en pleine difficulté, mais c'est à cause de que je ne parle pas la langue et je ne connais pas la culture, donc toujours on a des difficultés. Et puis je pensais que ça c'est le racisme. En fait, c'est pas vrai. Quand tu parles bien français, quand tu adoptes la vie française, et tu peux avoir beaucoup d'amis. Maintenant, je suis dans la société française, sans problème. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis français. Je me sens que comme je suis un français, hein, déjà. Mmh. Mais par contre, pour les moyens classes, ça veut dire, je vois dans la société française, c'est les moyens classes, ils sont gentils, ils sont... bien accueillir les gens qui viennent d'étrangères et bien ensemble. Mmh. Mais par contre, les autres, par exemple, je ne sais pas, il y a de la famille très noblesse, ou bien très fermée, ils sont vraiment dans le pointé plus haut de pyramide. Mmh. Eux qui ne veulent pas nous contacter. Et sinon, que c'est dans la rue, imagine, dans le quartier de 20e arrondissement, 18e arrondissement, quand tu vois les gens, ce sont des agressés, c'est pas religion. C'est pas le racisme, en fait.
Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Madame Nguyen Conan, j'aimerais vous lire en fait un extrait de votre livre. À la fin, vous écrivez « Je suis française, mais à ma manière. J'ai le droit de dire que je n'aime pas la France. J'ai autant de légitimité que d'autres à le faire. »
Oui, effectivement, il y avait quelque chose de très intéressant dans le rapport à l'identité française, et je pense qu'on est tous là très français autour de cette table. Moi, ça a été, j'ai toujours cru que effectivement être français c'était mieux que d'être vietnamien. Être vietnamienne. Et donc j'ai toute ma vie, enfin j'avais 40 et quelques années en France, j'ai voulu être plus française que les Français. J'ai tout fait pour ça. Puis après, je me suis rendu compte que malgré tout, donc contrairement à ce que dit M. Wang, malgré tout, quand vous avez coché toutes les cases, ben en fait, on vous dit quand même que vous êtes toujours pas complètement française. Et donc, on vous renvoie toujours à ces origines que vous n'avez pas. Enfin, je veux dire, vous les connaissiez pas, etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce que va faire Grace aussi dans ses projets, c'est de dire, en fait, le voyage que l'on fait, interculturel que l'on fait, donc, de revenir à ses origines, pour mieux se sentir français, quelque part, c'est très important. Donc, j'invite vraiment, voilà, toujours toutes les personnes asiatiques à faire ce voyage-là, donc voilà.
Et c'est comme ça que les choses pourront évoluer, que le regard pourra changer aussi sur la communauté, les communautés asiatiques. Kélam,
tout a été dit.
Eh bien, on va finir là-dessus. Merci, merci beaucoup Maïlam Nguyen Conan. Merci Kélam, merci également à vous, Sacha Lynn, de nous avoir rejoints. Merci Grassly, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Sophia Bédard pour vous répondre les voisins, Alexandra Sirgan également, et merci à vous, bien sûr, les voisins, les voisines. Demain, dans 7 milliards de voisins, nous parlerons des prénoms. Nos prénoms influencent-ils nos vies et nos personnalités? En quoi peuvent-ils être aussi un marqueur social? Et comment, quand on est parent ou futur parent, bien choisir le prénom de son enfant? On parle de tout ça demain, les voisins, et tout de suite, un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Speak en français, Yvan Amar.
Speak en français, évidemment, mais...